Donc d'abord générique.
Et nous sommes sur Radio Campus, tous ensemble. Bonjour Virginie.
Bonjour Catherine, ravie de te revoir. Disons, les mois d'été, on est en bonne compagnie.
Hein. Eh oui, on se lâche
pas. Ça contre Max, hein, bien sûr, on sera content de le retrouver aussi. Mais bon, quand même.
On profite.
Entre filles. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Henri. Et il va nous parler d'une version de revenu de base un peu spéciale. Bonjour Henri.
Bonjour à tous, merci à vous de m'accueillir.
Avec plaisir. Bon, d'abord Henri, tu vas passer à la moulinette de notre question rituelle. Alors, imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, il n'y a rien à faire, c'est à ton nom et c'est jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que ça change pour toi ?
Qu'est-ce que ça change pour moi ? Eh bien, pas mal de choses en fait.
Ah.
La première chose, c'est déjà que je vais passer beaucoup moins de temps à militer pour le revenu de base, puisqu'il sera déjà là.
Eh, c'est pas bête ça, c'est vrai, mais on gagnera un temps fou.
Voilà, donc ça me dégagera du temps probablement pour militer pour autre chose. J'ai dans les cartons un autre sujet qui me passionne, qui est le passage de la 5e République à la première démocratie. Je pense que je changerai de sujet de militance.
C'est une bonne idée.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça changera pour moi de concrètement une beaucoup plus grande insouciance sur l'avenir. Ça me sortira de la précarité. Quand je dis la précarité, c'est pas la pauvreté. Je suis loin d'être pauvre. Mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je pourrais tomber au chômage, avoir un accident de la vie, toutes sortes de choses. Et c'est des choses dont j'aurais moins m'inquiéter. Plus d'épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Mais oui.
Je ferai sans doute moins de thésaurisation. C'est-à-dire que je mettrai moins de côté pour l'avenir et pour les coups durs. Je pourrais peut-être faire plus de dons aux associations ou sur les sujets sur lesquels qui m'intéressent.
Du coup, ton argent, il servirait...
J'aurai sans doute un petit peu moins d'argent à la fin du mois, parce que le jour où le revenu de base sera instauré forcément pour verser les revenus de base, il faudra qu'il y ait plus d'impôts. Et comme je fais partie des gens qui sont quand même relativement aisés, je ferai certainement partie de ceux qui vont avoir plus d'impôts que de revenus de base touchés.
Youhou !
Sinon, peut-être que j'en profiterai avec moins de stress sur l'avenir pour passer à la semaine des 4 jours.
Mmh, oui, c'est bon.
Voilà.
Donc j'entends gagner du temps de vie sur le temps de travail, j'entends donner plus et j'entends participer plus au collectif en payant plus d'impôts.
Oui.
Ce qui est une bonne nouvelle, en fait, quand on le regarde comme ça, effectivement, ça ferait presque aimer les impôts.
Mais moi, j'ai rien contre les impôts, hein. Je veux dire, je tiens plus à avoir la sécurité sociale, l'assurance chômage, le revenu de base, la retraite le plus tôt possible et toutes ces choses-là. J'ai pas de problème à payer, j'ai pas de soucis dans la vie et j'ai toujours pensé que les gens comme moi devraient contribuer plus.
Eh ben, les fonctionnaires comme moi te remercient.
J'ai
bon,
été
Henri,
fonctionnaire,
dis-nous,
je ne le suis plus.
Comment est-ce que tu appelles ta version de revenu de base ?
Alors, je n'ai jamais pensé à l'appeler, je pourrais dire chartaliste, mais ça ferait plus référence à la façon dont il serait financé que de la façon dont il serait distribué. Ce qui sont deux choses relativement indépendantes.
Mmh. Bon, tu vas nous expliquer
si ça.
Mais il faut quand même que tu trouves un nom, Henri, parce que si tu ne sais pas comment l'appeler, elle ne va pas venir. Hein.
Ben.
Oui, bon, d'accord, c'est un jeu de mots débile. Alors,
non,
du coup, à défaut de l'appeler, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu en attends ? Ça ambitionne quoi ? C'est quoi les attentes, je sais pas, pour les individus, pour le collectif, notre communauté ?
Alors, les objectifs que j'assigne aux revenus de base et qui sont ce qui dirige la façon dont je construis mon canevas de proposition, c'est en premier de ne plus avoir de laisser pour compte, que tout le monde puisse subvenir à ses besoins et que personne ne passe entre les mailles du filet. C'est là que l'inconditionnalité est essentielle.
Mais oui.
Ensuite, une deuxième chose importante, c'est la simplification des démarches pour tous, parce que notre système actuel est quand même assez carcaillien. Ceux qui doivent aller dans le maquis des aides sociales, faire les demandes de RSA, faire les démarches à la CAF, et faire tout ça, c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup qui se retrouvent exclus parce qu'ils n'arrivent pas à faire les démarches. L'automatisation devrait beaucoup aider.
Y compris les agents qui sont censés nous les donner, d'ailleurs.
Un troisième objectif qui est celui d'atteindre le plein emploi. Et là, il faut que je précise un peu parce que faut que je donne la définition de plein emploi parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, j'ai pris référence de l'OIT, l'Office international du travail. Le plein emploi est une situation dans laquelle le chômage d'un territoire est réduit au chômage frictionnel incompressible. Soit un taux inférieur à 5% au sens de l'OIT, il n'existe alors pas de difficulté particulière à trouver un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Grosso modo, ça veut dire que par plein emploi, j'entends pas forcément que tout le monde bosse 40 heures, 50 heures ou X heures qui seraient définies comme une norme sociale du travail à temps complet, mais par le fait que toute personne au chômage désirant trouver des heures de travail en plus pour avoir une rémunération en plus parvienne à le trouver.
En plus,
et que ceux qui en souhaitent moins ou autres puissent travailler moins, c'est pas le sujet. Le problème, c'est éliminer la difficulté à trouver de l'emploi.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est un deuxième objectif. Cet objectif a un but, c'est que en fait chacun puisse facilement choisir son activité et que chacun puisse trouver son propre compromis de temps de travail et de niveau de rémunération nécessaire pour qu'il ait ce qui le satisfait, sachant que ce niveau peut être différent pour chacun. Certains seront contents en travaillant 20 heures par semaine et en gagnant peu, d'autres voudront faire 40 heures par semaine pour avoir plus, mais c'est à chacun de voir ce qu'il lui faut.
Oui, puis au fil de la vie aussi, ça peut changer.
Quatrième objectif, délivrer de la peur de la fin du mois. Ça, c'est un objectif de liberté. Ça permettra aux gens de choisir ce qu'ils vont faire. Ça permettra d'avoir des activités éthiques, écologiques pour ceux qui le souhaitent. Alors que pour le moment, quand le seul but, c'est de trouver n'importe quel travail pour faire bouillir la marmite, on se retrouve à faire des bullshit jobs, comme le dit David Graeber, des choses dont les gens sont conscients que ce serait mieux pour tout le monde s'ils le faisaient pas. Mais ils ont besoin de le faire juste pour manger.
Ça n'a pas de sens.
Et là, ça permettrait à chacun de réfléchir à faire des activités qui ont du sens pour eux. Cinquième objectif, je compte mal. Rééquilibrage du rapport de force entre employeurs et employés.
Ah, c'est une bonne idée.
Donc ça, c'est un objectif de justice sociale et d'égalité. Je pense que le revenu de base, lorsqu'il sera instauré, est par exemple un moyen pour les syndicats de pouvoir tenir des piquets de grève éternellement, s'il le faut. C'est un moyen de renégocier le niveau de rémunération des travaux les plus difficiles, parce que les gens qui les font, si on ne les rémunère pas à la juste valeur, ont un moyen de repli. Je pense qu'il y a fortement à gagner de ce côté-là. Aussi apaiser et pacifier la société. Moins de stress, moins d'inquiétude, moins de précarité, de peur de l'avenir. Et donc ça permettra aussi d'apaiser la société, d'avoir probablement moins de tensions. Et ça amène à un objectif de fraternité aussi. Voilà. Et ensuite, dans les choses que le revenu de base ne doit pas essayer de faire, j'identifie quatre choses. Autant on veut potentiellement remplacer le RSA, les APL et un certain nombre de prestations, l'assurance maladie ne doit pas être remplacée, quoi qu'il arrive. Pour une bonne et simple raison, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assurantiel dans le sens où il y a plein de gens qui n'ont pas de problème de maladie et qui n'ont pas de besoins financiers pour des dépenses de santé. Et il y a de l'autre côté des gens qui ont des problèmes extrêmement lourds. Et aucun revenu de base ne sera suffisant pour financer les dépenses de quelqu'un qui aura une maladie très grave ou très invalidante. Et si on voulait avoir un revenu de base vraiment suffisant par ça, le montant serait juste démesuré et n'aurait aucun sens pour ceux qui n'ont pas ces problèmes. Une deuxième chose qui ne doit pas être remplacée par le revenu de base est l'assurance retraite. Parce que derrière ça, on a le revenu de base dans la vie courante, pour la plupart des gens, sera le complément des revenus d'activité, puisque c'est cumulable avec tous les autres revenus. Ouais. Alors que normalement, à la retraite, on n'est plus censé cumuler avec autre chose, donc il faut qu'il y ait quand même un revenu de remplacement des activités qui n'ont plus cours quand on est à la retraite. Ouais. De la même manière, les aides aux personnes handicapées ne doivent pas être remplacées par le revenu de base et doivent rester cumulées avec le revenu de base, parce que comme les malades et comme les retraités, les handicapés sont des personnes qui ont des besoins supplémentaires et qui n'ont pas forcément les moyens par des activités de les compenser.
C'est des aides compensatoires, quoi.
Pardon ?
C'est des aides compensatoires.
Oui, c'est ça. Grosso modo, donc ça, et là, il y a trois catégories d'aides compensatoires, et il y a une quatrième catégorie qui n'est pas une aide compensatoire, ou enfin, en tout cas, je ne l'identifie pas comme telle. L'éducation doit rester gratuite. J'ai vu beaucoup de modèles, surtout côté américain et autres, où on envisage de dire que à partir du moment où les gens ont des sous, ils peuvent se payer l'éducation eux-mêmes. Et je pense que l'éducation doit rester dans le domaine de la gratuité pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne peut pas en abuser. Et donc, il n'y a pas de raison de lui donner un prix. Et la deuxième, c'est que il est très important que le niveau d'éducation reste le plus important possible. Comme disait Einstein, vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. Oui. Donc voilà, ça c'est en termes d'objectifs ce qu'on veut atteindre et ce qu'on ne veut surtout pas faire.
Ce que j'entends dans les attentes que tu dresses, en fait ça rejoint les effets qu'on voit déjà dans les expérimentations. Donc, par exemple, quand tu parles de paix individuelle, parce qu'effectivement, il y a dans les expérimentations, par exemple, en Inde, ils ont fait des tests sur le taux de cortisol salivaire, comme ils disent, et les gens sont effectivement moins stressés que d'autres avec cette sécurité de revenus. Et en termes sociétal, puisque bah, tu l'as ébauché, quand on est bien dans sa peau et qu'on a une sécurité à vie, au moins un matelas, quoi. Il y a moins de délinquance, il y a moins de raisons de voler, d'agresser, parce que on a ce qu'il faut, quoi. Donc tout ce que tu tisses, ça a l'air déjà bien parti, parce que c'est déjà annoncé dans les premières expérimentations. Mais alors du coup, très concrètement, comment ça s'organise ?
Alors, comment ça s'organise ? Derrière ça, il y a deux parties. Il y a la partie versement et la partie financement, qui sont un peu les deux faces d'une même pièce, mais qui ne suivent pas la même logique. La première chose est d'établir un montant de revenus de base. Et là, contrairement à d'autres intervenants que vous avez pu avoir sur votre radio, je ne présente pas un modèle finalisé de revenus de base dans lequel chaque détail est mis au point, et c'est à dessein. C'est-à-dire que je pense très fortement que je peux toujours tirer des plans sur la comète et monter un programme jusqu'au moindre détail, mais c'est pas ce qui se passera dans la réalité, parce que dans la réalité, il y aura la confrontation avec le réel, il y aura de la négociation. Le jour où ce sera mis en place, ce sera forcément mis en place par, probablement en France, l'Assemblée nationale ou autre, et il y aura un certain nombre de compromis qui devront être faits. Et donc là, on a plus besoin d'un processus pour aboutir à quelque chose que de valeurs prédéfinies. On a besoin d'un cadre dans lequel on peut savoir ce qu'on peut négocier. Et donc là-dedans, pour le montant, la première chose importante pour moi, c'est d'éviter toute régression sociale au niveau des plus pauvres. Ouais. C'est-à-dire que, quelles que soient les prestations qui seront fondues dans le revenu de base le jour où il sera instauré, si tant est qu'il y en a qui soient fondues et qui ne soient pas juste ajoutées au reste de ce qui existe, il faut absolument que son montant soit supérieur à ce qui sera remplacé. Et ce qui sera rendu obsolète par l'existence du revenu de base au moment de l'instauration. Mais ça n'est pas l'objectif final, ce n'est que la première marche, le pied dans la porte. Ensuite, de toute façon, le montant sera forcément le compromis lié à un rapport de force entre les forces politiques en présence qui vont négocier et voter cette instauration. Ma croyance, c'est que l'objectif, c'est de réévaluer le montant en loi de finances chaque année, si possible à la hausse, pour atteindre l'un des objectifs que j'ai cités tout à l'heure, qui est l'objectif de plein emploi. Qu'est-ce que j'entends par atteindre l'objectif de plein emploi et en quoi je lis le montant du revenu de base à cet objectif ?
Mais oui.
En fait, il se passe deux choses quand on augmente le montant d'un revenu de base. La première chose, c'est que ça solvabilise de la demande. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire que, évidemment, verser un revenu de base, c'est une redistribution, ça prélève de l'argent qui est par les impôts et les prélèvements obligatoires, qui est redistribué équitablement à toute la population. Et ça, ça veut dire que dans tous les modèles, il y aura plus de prélèvements sur ceux qui ont le plus de moyens et une redistribution égale. Donc, ça devrait augmenter le niveau de revenu des plus pauvres.
Sachant donc plus de pouvoir d'achat, quoi.
Ceux qui dépensent quasiment tout ce qu'ils ont et qui épargnent le moins, alors que ce qui sera prélevé sur le menu des plus riches, sur les revenus des plus riches, était de toute façon mis de côté, mis en banque ou investi. Alors, on va se retrouver en fait avec une augmentation de la demande et de la consommation, et ça va créer de l'emploi. Parce que, comme disait Serge Dassault, même s'il avait 1 milliard de plus, il ne pourrait pas manger 7 poulets par jour.
Donc, ce que j'entends, c'est que en donnant plus de pouvoir d'achat à ceux qui en ont le moins, en prenant un peu plus à tous ceux qui en ont trop, du coup, on redynamise l'économie parce qu'on remet des fluidités, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est la moitié du sujet. La première moitié, c'est qu'en solvabilisant de la demande, on crée de l'emploi. Dans quelle mesure, ça dépend. Plus le montant du revenu de base sera important et plus ça va créer d'emplois.
D'accord.
Et il y a le deuxième versant en ciseaux dans l'autre sens qui contribue aussi à l'avènement du plein emploi. C'est que plus le revenu de base sera élevé et plus il va y avoir une diminution de la demande d'heures de travail. Comme je vous ai dit tout au début, par exemple, pour moi, ça changerait dans ma vie que peut-être que je passerais à la semaine des 4 jours.
Oui, une réduction individuelle.
Si je ne bosse plus que 4 jours par semaine, ça veut dire que il y a un jour par semaine qui est remis sur le marché de l'emploi parce que mon patron, il a toujours besoin du travail que je fais pendant 5 jours.
Donc répartition du temps de travail.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça crée de la répartition du temps de travail. Et donc, de mon point de vue, plus on augmente le montant du revenu de base, plus on crée de demandes d'emploi, plus on crée d'offres d'emploi et plus on diminue la demande. Et il y a un moment où on atteindra le seuil auquel les courbes vont se croiser.
D'accord.
Et on atteindra le plein emploi, c'est-à-dire que tout le monde trouvera facilement un emploi.
Et en même temps, sur une base...
Au MFRB, il y a la question de l'inflation qui se pose souvent. Et justement, c'est au moment où les courbes se croisent que l'inflation risque de démarrer. Et donc, je pense que le montant du revenu de base ne pourra jamais devenir plus élevé que cela.
D'accord.
Parce que s'il devient plus élevé que l'atteinte du seuil de plein emploi, on se retrouvera dans une situation où soit l'inflation va rattraper la différence et on va se retrouver avec un nouveau seuil de plein emploi qui sera au montant du revenu de base. Soit on va se retrouver comme en Russie pendant la perestroïka, avec des gens qui auront plein de sous, plein les poches, et qui déambuleront dans les supermarchés au rayon vide. Je pense du coup que, ce seuil de plein emploi est le montant maximum. Après, je ne sais pas dire de façon chiffrée de combien il est. Je pense qu'il faut augmenter ce montant petit à petit jusqu'à ce qu'on atteigne ce seuil.
Ce que j'entends du coup, c'est que c'est une façon aussi de trouver une forme d'équilibre entre ma liberté de travailler moins et les besoins collectifs finalement. Quelque chose qui...
Si on arrive au-dessus de ce seuil, à un moment, les gens vont... Si les gens ont tout l'argent qu'il leur faut et qu'ils ont plus besoin de travailler plus, ben, ils arrêteront de travailler plus, mais à un moment, on se rendra compte que l'argent, c'est que de la comptabilité. Et oui. Comme disait Sitting Bull, quand le dernier arbre sera coupé, le dernier poisson sera pêché, la dernière rivière sera polluée, l'homme blanc se rendra compte que l'argent ne se mange pas. C'est-à-dire qu'il faudra quand même toujours qu'il y ait un certain niveau de travail qui soit fait. Les gens qui sont payés à nous harceler au téléphone pour nous vendre des assurances arrêtent de travailler, la société ne s'en portera pas plus mal. Si on arrive jusqu'au seuil où les agriculteurs s'arrêtent de travailler et qu'on ne fait plus rien pousser, à un moment ou à un autre, on n'arrivera pas à servir un revenu de base efficace, puisque le but du revenu de base, c'est pas de distribuer de l'argent, c'est de distribuer du pouvoir d'achat pour pouvoir s'acheter du blé, des carottes, des radis, des patates et tout ça. Et donc, il y a un moment où ça se rééquilibrera d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Ouais. La physique est comme ça.
J'entends aussi que, du coup, c'est une possibilité de rentrer dans l'équation notre productivité, parce que forcément, ça va venir entrer dans cet équilibre, cette recherche d'équilibre constant entre mon envie de travailler, l'offre de travail, la nécessité de travail, et puis les choix collectifs qu'on fera sur quel type de travail, quel type de production, etc. etc. quoi. Enfin,
Et mon grand espoir là-dedans, c'est qu'au moins, on arrête d'augmenter la productivité des travaux inutiles. C'est-à-dire tous ceux dont parle David Graeber dans Bullshit Job, où les gens savent que ce serait tellement mieux pour tout le monde s'ils ne le faisaient pas.
Et donc, du coup, individuellement, on aurait la capacité de décider ce qui est bon pour nous, ce qui ferait déjà moins de coûts, parce qu'on le voit aussi dans les expérimentations. Quand on est stressé, on est plus malade, et quand il y a un revenu de base, on est moins malade. Donc, il y aurait aussi des sortes de coûts positifs qu'on peut pas anticiper. Enfin, tu disais effectivement, on peut pas poser des chiffres sur tout et prévoir même à l'euro comment ça se passera. Mais on voit effectivement se dessiner un équilibre entre les différentes composantes de ce qu'on appelle l'économie et voilà, la gestion de la maison, quoi. Enfin, étymologiquement, individuelle et collective.
C'est un équilibre. Comme en vélo, cet équilibre, on le trouve en avançant. Il est pas prévisible, mais il est atteignable si on a le processus pour l'atteindre.
Et ça implique aussi un processus démocratique, pas seulement économique pour le coup.
Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, le revenu de base n'adviendra que si les gens en veulent, et potentiellement si une majorité des gens en veulent, ou si ceux qui ont le pouvoir en veulent. C'est la question de la démocratie, de la République. Pour le moment, on a ça en Iran, c'est pas particulièrement une démocratie. c'est la question de l'instauration, c'est de ceux qui ont le pouvoir. Dans une démocratie, c'est la majorité. Ailleurs, c'est autrement que ça se passe.
Bon, mais du coup, quand même, pour clarifier, ce que j'entends, c'est que dans cette espèce d'état d'équilibre, toujours en mouvement, hein, forcément, puisque c'est un équilibre en évolution, mais on atteindrait quand même un certain, quelques critères. Je cherche un peu de repères, tu vois, par rapport à d'autres proposition de revenu de base. Ce que j'entends, c'est que ça peut suffire à ne pas travailler dans une certaine mesure. Ça doit suffire à vivre dignement. Donc ça, c'est quand tu dis pas de régression sociale.
En fait, j'essaye par ce processus d'évacuer la question du montant suffisant. Dans le sens où c'est une question qui se pose largement au sein des militants autour du revenu de base. Quel est le bon montant et quel est le montant suffisant? Et il se trouve que, quand on demande à 10 personnes quel est le montant suffisant, on obtient 10 réponses qui sont variables de plusieurs ordres de grandeur. Tout simplement parce que, je pense que vous connaissez tous, des gens qui se satisfont de très peu. Je connais quelques personnes qui sont RSA et qui en sont très contentes et qui gèrent avec ça. Et je connais aussi des gens qui touchent plus de 3 000 voire 4 000 euros par mois et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Parce que chacun voit midi à sa porte. Et c'est là que, avec cet objectif d'atteindre le plein emploi, tout le monde a la même base, le revenu de base. Et pour ceux à qui ça suffit, ben, ils ont le droit de s'en suffire. Et pour ceux à qui ça suffit pas, ben, comme c'est facile de trouver un emploi, ils pourront compléter et chacun pourra avoir, de son point de vue, ce qui lui suffit à lui.
Bah écoute, tu nous fais rêver. On va laisser en suspens un petit peu les esprits de nos auditeurs et auditrices pendant la musique, histoire que, qu'ils intègrent un petit peu tout ça. Catherine, tu nous proposes
Rallumeur d'étoiles, de HK.
Un drôle de métier, avec moi embarqué quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est chaos, Black, on sort les échelles et les chalumeaux, Franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Chasseur de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce aux souffleurs de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froids de lumière. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore. Les rallumer encore. Et encore et encore.
Rallumer l'étoile.
Rallumer l'étoile. Lycéo notre idéal. Lycéo nos idéaux, nos idées.
Rallumer. Non, j'ai pas raccroché le pic, j'ai de la musique dans une oreille et toi dans l'autre oreille. Alors la mise en œuvre, ben, je peux proposer. Alors il y a deux choses. Là pour le moment j'ai parlé que du montant. J'ai pas parlé de comment on le met en œuvre progressivement, si tu veux le faire. Et je n'ai pas parlé du mode de versement.
également dédicacée aux routières, aux câblières, infirmières, jardinières, pâtissières, tapissières, biscuitières, joaillières, téléphonistes et machinistes, aux fleuristes, aux choristes, aux urbanistes, aux ébénistes, aux pépiniéristes, aux satiristes, aux coloristes, aux courriéristes, aux chimistes, aux hygiénistes, aux trompettistes, aux trapézistes. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. Dédicacé aux géologues, psychologues, sociologues, sinologues, philologues, éthologues, graphologues, archéologues, paléologues, marinières, infirmières. Continue la liste. Téléphoniste, machiniste, économiste, violoniste, étalagiste, paysagiste, métallurgiste, aquarelliste, carriériste, archiviste, journaliste et modéliste. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité. Dédicacée aux serveuses, aux chroniqueuses, aux visiteuses, aux chercheuses, aux enquêteuses, aux ajusteuses, aux acheteuses, aux chanteuses, aux danseuses, inspectrices ou perforatrices, dessinatrices, créatrices, animatrices, opératrices, réalisatrices, productrices, éducatrices, monitrices, compositrices, cantatrices, galériennes, magiciennes, aux historiennes, bohémiennes, aux grammairiennes, aux physiciennes, aux techniciennes, aux gardiennes, aux électriciennes, aux mécaniciennes, aux comédiennes, aux pharmaciennes, aux musiciennes, aux famousiennes. À toutes celles saisonnières, céréalières ou journalières qui pour un travail égal, c'est lui qui a fait le mal. La qualification égale, touche moins, c'est pas normal. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas gagné la bataille. On parle d'égalité, on parle de parité, mais les femmes qui travaillent n'ont pas fini de batailler.
Et nous revoilà sur Radio Campus, tous ensemble.
Mais alors, qu'est-ce qu'on a écouté, Catherine ?
Alors, on a parlé d'égalité et c'était les Fémouses. Mmh. Ouh, bah du coup, j'étais repartie pour danser, moi, ça y est.
Bah écoute, fais comme chez toi. Bon, Henri, nous, on va continuer notre petite émission pendant que Catherine s'en va danser. Alors... Henri, on t'a lâché juste au moment où tu allais nous parler du plus important, le mode de versement. Comment est-ce qu'on va recevoir ton revenu de base ?
Ok. Donc, le mode de versement, comme dit, à un moment ou un autre, il sera choisi par les rapports de force politiques qui seront en place. Mmh. Mon espoir, c'est qu'il soit versé mensuellement par le Trésor public. Sur le compte des habitants directement, tout comme le Trésor public fait le prélèvement. Donc, en fait, tout comme le Trésor public prélève les impôts tous les mois pour ceux qui sont mensualisés et automatiquement depuis l'impôt à la source, là, le revenu de base serait versé par le Trésor public. Donc, ce serait le même mouvement, mais dans l'autre sens, du Trésor public vers le compte en banque de tout un chacun. Ça veut par contre dire qu'il faut que, pour que tout le monde puisse avoir le revenu de base, il faut d'une façon ou d'une autre que tout le monde soit enregistré quelque part auprès du Trésor public ou du fisc ou de l'organisme qui sera destiné à le payer, parce que c'est le point le plus difficile de l'universalité du revenu de base. Pour pouvoir verser le revenu de base à tout le monde, il va falloir d'une façon ou d'une autre que l'État ait connaissance de l'existence de tout le monde et d'un moyen de paiement vers chacune de ces personnes. Et c'est potentiellement le point le plus dur à résoudre. Ensuite, le fait de faire le versement, c'est avant tout une décision législative. Elle sera peut-être dure à faire passer. Mais une fois qu'elle sera votée, ce sera plus un point compliqué. Et derrière ça, il est absolument fondamental et important que ce versement se fasse en monnaie libératoire. Qu'est-ce que j'entends par monnaie libératoire ? C'est une monnaie, quelle qu'elle soit, qui soit acceptée pour le paiement des impôts. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit le Trésor public qui se charge et D'accord. des impôts et du versement du revenu de base.
C'est pas une monnaie locale, quoi.
Dans les militants pour le revenu de base qui envisagent des paiements en monnaie locale, que ce soit de la sole violette, dans ma région c'est le ch'tuc, il y a d'autres régions c'est les abeilles, les radis et autres. Et je pense que il est absolument fondamental et important que ce soit fait dans la même monnaie qui est acceptée pour le paiement des impôts, parce que sinon toutes ces monnaies ne rendent pas libre de ce qu'on achète. Dans le sens où les monnaies locales sont très très bien et elles ont un objectif, c'est de rediriger la consommation vers des commerces en général locaux et signataires d'une charte qui correspond à des enjeux économiques, sociaux, environnementaux qui sont très très bien. Mais je pense personnellement que le revenu de base doit être payé dans une monnaie qui permet de tout faire.
Et puis là, on est dans un niveau plus macro, finalement. On est plus dans la macroéconomie que dans l'éco, enfin dans la régulation locale des ressources. Ça pourrait être complémentaire, mais ce n'est pas la même chose, effectivement. C'est pas la même échelle.
Je n'ai rien contre ces systèmes de régulation locale qui sont très, très bien. Mais pour moi, ils doivent rester à côté du revenu de base. Ils ne doivent pas être fondus avec le revenu de base.
Et du coup, ce serait la même main qui donnerait de façon égalitaire et qui reprendrait de façon équitable.
C'est ça.
Oh, c'est beau.
Et donc, là, on arrive sur la question clairement qui vient du financement, c'est-à-dire la main qui prend. Il va aussi falloir en parler à un moment ou un autre. Et donc, là, moi, je me base sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, qui dit, si je les retrouve, voilà, je les ai sous les yeux, non, si, c'est parti, pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Et c'est le « en raison de leur faculté » qui est très, très important. Donc ça veut dire forcément que ceux qui ont plus de facultés vont payer davantage. Et là, il y a une dichotomie qui se fait entre ceux qui pensent que les facultés dépendent des revenus et ceux qui pensent que les facultés dépendent du patrimoine. Moi, je pense fortement que ça dépend du patrimoine. C'est-à-dire que... quelqu'un qui pourrait être très très riche et avoir énormément de patrimoine pourrait tout à fait n'avoir aucun revenu, d'autant plus qu'il n'a pas forcément à s'en soucier s'il est assis sur un tas d'or. Et à l'inverse, quelqu'un qui est extrêmement endetté pour des accidents de la vie, X raisons ou autres, même avec un gros revenu, peut être à la cave et dans le rouge tous les mois. Je pense que le patrimoine est vraiment l'essence des facultés contributives. Derrière ça, ça veut dire que... Je vois trois formes de financement du revenu de base. D'accord. Et en fait, pas du revenu de base, mais de la dépense publique en général. Pourquoi ? Parce que, en fait, le financement du revenu de base, je vais le dire simplement, ça veut tout dire et ça veut rien dire, il doit être prélevé sur le budget général de l'État. D'accord. Pourquoi je dis ça ? Parce que, quand on regarde pour les ponts, les routes, les écoles, personne ne se soucie réellement de savoir si ce sont les écoles qui sont payées par l'impôt sur revenu et les hôpitaux qui sont payés par la TVA ou le contraire. L'important, c'est que la somme des recettes couvre la somme des dépenses. Et l'affectation d'une recette à une dépense particulière n'a pas de sens. Et non seulement elle n'a pas de sens, mais en plus elle est dangereuse. Tout simplement parce que si on dit qu'une recette particulière doit être affectée à une dépense particulière, le financement de la dépense particulière va être dépendant de la recette particulière. Imaginons un exemple tout bête, qu'on finance la prévention routière avec les amendes d'excès de vitesse de feu rouge grillé et d'infraction au code de la route. On pourrait se dire, c'est une bonne idée, ça va de pair, il y a une relation entre la prévention routière les infractions routières. Et qu'est-ce qui se passerait ? Si la prévention routière est efficace, les infractions routières vont diminuer et il n'y aura plus moyen de financer la prévention. Et comme il n'y aura plus de prévention, il y aura de nouveau des infractions et on va juste faire des oscillations et des cycles. Et il est vraiment important de mettre une indépendance entre les recettes et les dépenses. À partir de là, tout comme j'ai fixé des objectifs à atteindre par le revenu de base dans son versement, il faut choisir en fait les prélèvements obligatoires en fonction des objectifs qu'ils doivent atteindre en dehors de financer les dépenses de l'État. Parce que toute taxe ou tout impôt permet de financer les dépenses de l'État. Mais il faut se poser la question de quels sont leurs effets secondaires, potentiellement bénéfiques ou non. Et là, je sépare ça en trois catégories. Ce qu'on appelle souvent les taxes pigouviennes, c'est-à-dire tout ce qui relève, en fait, du contraire d'une subvention. Quand on veut favoriser quelque chose, on le subventionne. Quand on veut le défavoriser, on le désubventionne, anti-subventionne, enfin on met en place une taxe pigouvienne. Que ce soit les taxes, et là il y a tous les choix, et c'est la démocratie qui décide ce qu'elle veut enrayer, éliminer, freiner. Ça peut être des taxes carbone, ça peut être des taxes sur l'alcool, ça peut être des taxes sur le tabac, ça peut être des taxes, je parlais de griller les feux rouges ou des excès de vitesse. Si on estime que c'est pas bien, on peut augmenter le prix. Et toutes ces taxes-là...
Pour désinciter, en fait,
Pardon ?
Pour désinciter des mésusages ou des mauvais comportements.
Voilà. Et c'est à la démocratie de décider ce qui est un mauvais usage ou un mauvais comportement. À partir de là, en fait, on a une partie du financement qui est de l'ensemble des recettes de l'État, c'est-à-dire revenus de base, plus les écoles, plus les routes, plus les hôpitaux, plus, comme dit, je mets tout dans le même paquet. On se retrouve avec un certain nombre de taxes qui ont cet objectif de résoudre des problèmes de société autres que le financement. Ces taxes-là, certaines ont vocation à assécher leur base et donc à ne pas rapporter beaucoup. D'autres ne pourront pas assécher leur base. Typiquement, si on met en place une taxe carbone, c'est très bon pour l'écologie. Ça permettra de rendre les tomates bio concurrentielles avec les tomates industrielles et peut-être de produire plus de tomates bio et moins de tomates industrielles. Les activités humaines continueront à consommer du carbone et à générer des pollutions et autres, et ça n'éteindra pas totalement la base. Il en restera toujours. Alors que pour certaines infractions, peut-être qu'elles disparaîtront totalement. Et peu importe que ça complète ou non le budget total de l'État, l'important, c'est les effets secondaires de ces taxes. Il faut surtout pas supprimer une taxe parce qu'elle ne rapporte plus rien. Si elle ne rapporte plus rien, c'est qu'elle a super bien marché et qu'il faut la maintenir. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui n'a pas vocation à rapporter beaucoup, mais qu'il faut aussi mettre en place pour gérer le budget de l'État et l'économie. C'est toujours chaque année en loi de finances, il faut décider quel est le taux d'inflation désiré. En général, il y a consensus sur 2 à 3%, c'est une bonne chose. Quand ça stagne ou qu'il y a de la déflation, c'est une mauvaise chose. Et quand il y a 5 à 10% d'inflation, c'est une mauvaise chose. En tout cas, toujours est-il qu'une fois qu'on a décidé le taux d'inflation désiré, on sait quelle est la différence entre la quantité de monnaie qui va être émise et la quantité de monnaie qui va être récupérée par l'impôt. Et si on veut 2 à 3% d'inflation, ça veut dire... techniquement, 2 à 3% de dépenses en plus des recettes. C'est pas exactement ça, mais ça fixe un ordre d'idée. Derrière ça, ça non plus, ça ne rapporte pas beaucoup, mais c'est important de le faire parce qu'il faut qu'un État pilote son taux d'inflation. Et ensuite, vous me direz, il y a tout le reste.
Oui.
Et c'est là que, pour tout le reste, ce que je suggère, c'est...
Top.
Ok. Je disais, le troisième volet, ce serait une taxe sur l'actif net. C'est là que j'en reviens à la question des facultés contributives et du patrimoine.
Oula, attends, tu m'as perdu. Une taxe sur quoi ?
L'actif net.
C'est quoi ?
Voilà, ben, c'est ce que je vais expliquer. Donc, la taxe sur l'actif net, qu'est-ce que c'est ? Grosso modo, c'est une taxe sur le patrimoine qui est calculée par assiette sur l'actif net d'une personne. Qu'est-ce que l'actif net d'une personne ? C'est tout ce qu'elle possède, moins ses dettes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez une voiture, une maison, des machines dans votre atelier et encore un certain nombre de choses dans votre garage qui ont beaucoup de valeur, tout ça, c'est mis à votre actif. Si vous avez des immeubles, si vous avez des actions, de l'argent sur votre compte en banque. Une fois que tout ça s'est mis à votre actif, on déduit vos dettes. Parce que, par exemple, si vous avez une maison qui vaut 200 000 euros, mais qu'en fait, vous avez juste commencé à la rembourser, vous en avez remboursé 5%, en fait, dans votre actif net, il n'y a pas 200 000 euros, il y a 10 000 euros. Puisque, en fait, c'est la banque qui possède le reste de la maison.
Mais oui.
Et donc, cet actif net représente, selon moi, la faculté contributive des gens.
D'accord.
Et elle a un gros avantage, cette taxe sur l'actif net. Grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est un impôt sur la fortune étendue. C'est-à-dire que l'impôt sur la fortune, c'est seulement une tranche sur les plus hautes fortunes avec un très faible taux et très légèrement progressif. Et qui en plus était réduit à l'IFI par Emmanuel Macron, donc maintenant c'est uniquement la fortune immobilière, et pourtant il y a d'autres formes de fortune, et les plus riches ont en général très peu d'immobilier dans leur dans la totalité, comme pourcentage de la totalité de leur patrimoine. Et donc là, il s'agit vraiment de la totalité de ce qui fait l'actif financier d'une personne.
D'accord.
Et donc, le gros avantage de ça, c'est que l'actif net des Français, en moyenne, enfin le total, change très très peu d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que quand on a des récessions, quand on a de la croissance, quand on a des choses, les revenus des gens changent. Certains perdent leur emploi, d'autres gagnent des choses. Par contre, l'actif net des Français est très 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 stable d'une année sur l'autre, parce que grosso modo les recettes des uns sont les dépenses des autres, et quand quelqu'un a gagné, quelqu'un d'autre a perdu, et ainsi de suite. Je me suis amusé à chercher dans les statistiques de l'INSEE ce que représente l'actif net des Français aujourd'hui. Et attention aux gros chiffres, c'est dans les 11 000 milliards. En 2010, quand j'ai regardé ça, et aujourd'hui ça n'a pas beaucoup varié, ça a légèrement augmenté, ça représenterait, si on le divise par le nombre d'habitants en France, c'est-à-dire un petit peu plus de 65 millions d'habitants, qu'on le divise par 12 mois, si on prélevait tout, ça représenterait un peu plus de 13 500 euros par personne et par mois. Si on choisissait de tout prendre et de redistribuer. Ce que je ne propose absolument pas, parce que je n'envisage pas un revenu de base de 13 500 euros mensuels.
Mais ça donne un repère, en tout cas.
Voilà, mais c'est un repère pour savoir quelle est la hauteur de la manne.
C'est pas chez moi qu'il est.
Pour la mettre à une échelle, parce que si je vous dis juste 11 000 milliards, ça ne vous parle pas. Si je vous dis que ça représente 13 500 euros par Français et par mois,
Moi, ça me parle beaucoup.
Quelque chose qu'on, enfin, c'est quelque chose qu'on peut se représenter.
Voilà.
Voilà. Grosso modo, avec un très faible taux, avec seulement quelques pourcents, chaque pourcent de prélèvement qu'on mettrait sur l'actif net représente 102 milliards d'euros. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut tout simplement dire que quand on parle d'un revenu de base, par exemple, à 500 euros, et qu'on dit que ça coûterait 300 milliards d'euros, ça veut dire que ça représente en fait une taxe sur l'actif net de seulement 3% à rajouter sur ce qui existe déjà pour pouvoir financer un revenu de base à 500 euros, en gardant tout le reste pareil. Et comme en plus on veut substituer des choses, ça ferait moins. Si on voulait un revenu de base à 1000 euros, ça serait juste 6%. Un autre gros avantage du choix de cette taxe, en dehors du fait que ça s'appuie sur cet article 13 et sur la faculté contributive, à mon sens, c'est que, je vais essayer de le formuler clairement, c'est un énorme élastique de redistribution entre les patrimoines. C'est-à-dire que, grosso modo, si on a quelqu'un comme notre célèbre Bernard Arnault, qui est le Français le plus riche de tous, qui a de l'ordre de 300 milliards d'euros aujourd'hui, okay, si on lui prélève 1% d'actifs nets, ça fait 3 milliards d'euros. Si on lui en prélève 3%, ça fait quasiment 10 milliards d'euros, ça en fait 9 et des brouettes. Ça veut dire qu'à lui seul, il paye déjà des milliers de revenus de base. Et surtout, que autant quelqu'un qui n'a rien, 3% de rien, ça fait rien.
C'est ça.
C'est-à-dire que les petits gens, il y a beaucoup de gens qui ont plus de dettes que de patrimoine et autres. La plupart des petits gens ne paieront absolument rien. Autant quelqu'un comme Bernard Arnault n'arrivera probablement pas chaque année à gagner autant d'argent que ce qu'il va payer en impôts, ce qui fait que les écarts de patrimoine vont tendre à se réduire au cours du temps.
Ça fleure bon la justice, quoi.
Pour la plupart des gens, ça représente rien, mais pour les très très riches, ça va représenter énormément. Et il y a un deuxième gros avantage de cette taxe, c'est que, contrairement à tous les autres systèmes de prélèvement, il est très facile de savoir qui seront les gagnants et qui seront les perdants de la mesure. C'est-à-dire que tout, avec une flat tax, quel que soit le pourcentage, toute personne qui sera au-dessus du patrimoine moyen français va se retrouver perdant de la mesure. C'est-à-dire que le revenu de base qu'il va toucher sera inférieur à l'impôt qu'il va payer. Et toute personne qui sera en dessous du patrimoine moyen des Français sera gagnant. C'est-à-dire que le revenu de base qu'il va toucher sera supérieur à l'impôt qu'il va payer. Et ça permet d'identifier très rapidement les gens qui seront bénéficiaires ou déficitaires. Sachant que aujourd'hui, si vous voulez vous situer là-dedans, le patrimoine moyen est, selon la façon dont on le calcule, autour de quelque part entre 250 et 300 millions d'euros. Et 300 000 euros, pardon. 250 et 300 000 euros. Ça veut dire que si vous avez plus que ça, vous êtes dans les perdants. Si vous avez moins que ça, vous êtes dans les gagnants. Et attention, quand je dis 300 000 euros, il ne faut pas se dire, voilà, j'ai une maison à 1 million d'euros, je vais faire partie des perdants. Si vous avez une maison à 1 million d'euros, mais que vous êtes 4 personnes à vivre dedans, il faut diviser ce million par 4. Oui. Et là, vous vous rendez compte que vous êtes en dessous du seuil.
D'accord.
Et quand je dis 4 personnes, avec le calcul que j'ai fait par habitant, je n'ai pas compté juste les adultes, j'ai compté les enfants.
D'accord. Oui, donc ce que j'entends, c'est que c'est un sacré levier de régulation, de justice, en fait, hein, pour faire vite.
Tout à fait.
Faire simple. Waouh.
Et un autre gros avantage là-dedans, c'est que même Bernard Arnault, qui ne pourra peut-être pas gagner tout ce que ça va lui coûter chaque année, comme c'est flat et que c'est le même taux pour tout le monde, quelles que soient les sommes monumentales qu'on va lui prélever, après ce prélèvement, il reste encore le plus riche des Français.
Oui.
Il n'a toujours pas le droit de se plaindre.
Oui, on ne le met pas sur la paille, quoi. C'est pas... Le pauvre. Ah, les pauvres riches, c'est horrible. Bon, mais alors du coup...
Ça ne change même pas sa place dans le classement.
Oh, si jamais il avait son orgueil mal placé là. Du coup, tout ça, ça nous fait rêver, parce que c'est vrai que c'est quand même un sacré levier... et pour sortir de la pauvreté, regagner sa dignité, et puis oui, un levier de justice sociale quand même assez efficace.
Parce que les inégalités
efficaces.
De patrimoine sont bien plus importantes que les inégalités de revenus aujourd'hui. Il y a un rapport de 1 à 6, et donc ça, c'est un puissant levier pour ramener, d'élastique de rappel sur les inégalités de patrimoine.
Mais alors du coup, concrètement, comment est-ce qu'on y arrive à ça? Parce qu'on part d'aujourd'hui, on ne part pas d'un rêve.
Alors, la partie la plus difficile, c'est de réussir à décider nos décideurs politiques.
C'est ça.
Parce que l'avantage d'une mesure de redistribution telle que le revenu de base, c'est que elle ne pose jamais de problème technique, dans le sens où le revenu de base ne crée pas de valeur, ne détruit pas de valeur, il ne fait que la faire changer de poche ou la faire changer de main.
Il redistribue.
Il n'y a que du déjà-là qui est redistribué. Et ça veut dire que, en dehors de la difficulté d'amener à, les gens à décider de le faire, il n'y a aucun obstacle technique en termes de création de richesse. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que souvent on nous dit le revenu de base, ça va coûter un pognon de dingue, 300 millions d'euros ou autre chose. Le revenu de base, ça coûte la tête à Toto. Exactement zéro. puisque c'est quelque chose qui est prélevé chez les Français et qui est redistribué chez tous les Français à l'euro près. C'est comme si vous sortez un billet de 20 euros de votre poche gauche pour le mettre dans votre poche droite. Vous pouvez toujours dire que ça vaut 20 euros, mais vous êtes tout aussi riche avant qu'après.
Contrairement à quand même beaucoup de fuites aujourd'hui qu'on appelle ruissellement, mais qui se terminent dans des grosses poches qu'on ne voit jamais et sur lesquelles on n'a aucun pouvoir démocratique.
Bah, c'est-à-dire que le ruissellement, ça marche très bien et ça marche comme dans la nature. C'est-à-dire que c'est les petits ruisseaux qui ruissellent dans les grosses rivières, qui ruissellent dans les fleuves, qui ruissellent dans les gros lacs et qui ruissellent dans la mer. Le ruissellement, ça marche des pauvres vers les riches.
Bon, alors du coup, les premiers pas, ça serait quoi ?
Donc, premier pas, c'est de réussir à amener les décideurs politiques à en avoir envie.
Ouais.
Pour ça, il faut commencer par en parler à la population. C'est ce que vous faites avec Radio Campus. C'est ce qu'on essaie de faire avec le revenu de base et autres, parce que, grosso modo, les décideurs politiques, au bout du compte, même avec du retard et même avec de la mauvaise volonté, ils finissent toujours par faire ce que la majorité exige d'eux, parce que à quelques mandats près, sinon ils sont pas renouvelés, ils sont remplacés, et ce qui les intéresse le plus, c'est de garder leur place.
J'aime ton optimisme. On va partir de ça. Et voilà. Alors, du coup, le pas suivant, ça serait quoi ?
Le pas suivant, c'est au moment de l'organisation, une fois que la décision politique est emportée. Première chose, c'est de mettre en place les modes de financement. Et le plus important, c'est cette taxe sur l'actif net.
D'accord.
Alors pour mettre en place la taxe sur l'actif net, on peut en fait soit en décider de but en blanc, soit faire une transformation progressive de l'impôt sur la fortune, oui, immobilière actuelle. Première étape, il faut réélargir la base sur l'ensemble du patrimoine et pas juste sur les biens immobiliers, comme il l'était avant quand il s'appelait l'impôt sur la fortune.
Ben oui.
L'impôt, si, ISF, impôt sur la fortune.
Oui, c'est ça.
Et ensuite, il faut progressivement supprimer les tranches, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a une tranche, il faut déjà être très très riche pour commencer à le payer. Et en fait, il faut refaire descendre les tranches pour avoir, au bout du compte, un seul taux. Et il faut décider, en fait, de compléter le budget de l'État avec ça, c'est-à-dire que chaque année, on réévalue le taux de cet impôt en fonction des besoins de financement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé ce qu'on veut financer et qu'on a décidé de combien ça coûte, eh ben, c'est en fonction de combien ça coûte qu'on décide chaque année de changer le taux de cette taxe sur l'actif net.
En tout cas, Henri, moi, j'ai envie de te remercier parce que là, on arrive à la fin de notre émission et ce que je vois, c'est que il y a un certain nombre de conditionnements ou d'idées préconçues qui tombent avec ta présentation et j'ai l'impression que ça rouvre l'imaginaire. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller pour terminer ?
Alors, un livre, si je dois vous en conseiller qu'un, je vous conseille absolument de lire « Devise, l'irrésistible émergence de la monnaie » de Jean-Baptiste Bersac. C'est un livre qui est disponible en ligne gratuitement au format PDF sur le site de son auteur qui est malheureusement décédé il y a 3 ou 4 ans, mais le site est toujours là. Et le site s'appelle frappemonnaie.org, il me semble. Je pourrais donner le lien à Virginie qui le mettra en ligne sur votre radio ou par d'autres moyens. Ensuite, il y a d'autres livres intéressants sur le sujet, mais si vous devez commencer par un seul livre, ça, à mon avis, ça doit être celui-là.
Bah écoute, en tout cas, un grand, grand merci Henri.
Merci beaucoup.
Et puis, joli mois à tous et on se retrouve le mois prochain pour encore une autre version, chouette. Merci Henri, à bientôt.
Et bonne soirée.
Bonne journée.